Bonjour Manuela Viller.
Bonjour Fabienne.
Votre livre s'appelle donc Fuck My Cancer et techniquement on peut le traduire par J'emmerde mon cancer ou quelque chose d'approchant.
J'emmerde mon cancer est la version polie, voilà. Nique mon cancer est la version moins
Nique
polie.
Nique mon cancer aussi. En tout cas, vous racontez quasiment au jour le jour ce qui vous est arrivé depuis le diagnostic. C'était en 2013. Vous l'avez blogué d'ailleurs d'abord et vous êtes sur ce livre aujourd'hui. Un cancer du sein, un cancer métastasique, donc ce n'est pas la chose la plus simple qui vous arrive. Très vite blogué, et vous l'écrivez d'ailleurs aujourd'hui, ça sert à beaucoup de gens, mais vous le racontez, vous dites d'abord c'est pour moi que j'ai voulu écrire,
oui, avant même d'écrire pour les autres. Oui, c'était vraiment une démarche égoïste et thérapeutique. J'ai commencé à bloguer dès l'annonce, enfin pendant les diagnostics, sur un mode humoristique, puisqu'au début j'ai fait parler mes tumeurs, donc au fur et à mesure qu'elles se faisaient connaître, elles ont pris la parole. Après, à partir de l'opération, c'est devenu
un
peu plus sérieux.
Vous avez blogué sur le blog que vous aviez, qui était un blog de cuisine, ce qui effectivement était un peu bizarre sur le coup, au démarrage.
Voilà, j'avais un blog de cuisine ashkénaze qui s'appelait Kitchen Bazaar. Et très vite, le cancer ayant pris beaucoup de place dans ma vie, je lui ai donné une place sur le net un petit peu séparée. Et j'ai créé le blog Fuck My Cancer en septembre 2013.
Et c'est vrai que ça va avec ce que vous dites sur le démarrage, en fait. Vous avez acheté un cahier neuf des feutres. Voilà, il faut bien noter, bien comprendre exactement ce qui va m'arriver. Et je tiens à garder la ligne jusqu'au bout, en fait.
Oui, hein. C'était le contrôle. Alors, bon, mes enfants pourraient vous dire que je suis une control freak de nature, mais je n'étais pas une novice en cancer, puisque j'en avais eu une vingtaine d'années plus tôt, un cancer peu grave, si ça peut exister. Et là, je savais que je m'embarquais dans une aventure qui allait être plus embêtante, avec des risques plus importants, et je voulais garder le contrôle.
Et c'est vrai que dès le début, les médecins comprennent bien que vous allez être un cauchemar pour eux,
oui,
en quelque sorte.
Enfin,
vous êtes une emmerdeuse professionnelle, et c'est tant mieux. Du coup, vous posez des questions que... Mais vous le dites carrément, vous dites, je veux rester maîtresse des décisions qui me concernent, il va falloir le faire rapidement savoir. Donc au moins savoir à qui vous êtes aussi, face aux médecins qui vont vous soigner.
Voilà, la considération en tant que personne, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal avec le traitement parcellaire de mon anatomie, et j'ai vu que rien n'avait changé enfin en 20 ans. Donc très rapidement, oui, j'ai fait savoir.
Et c'est ça, en fait, qui me scotche, moi, en fait, qui m'a fait un peu tomber de mon siège, quand même, parce que moi, je suis comme vous, quand vous avez démarré, j'étais sûre que la médecine avait beaucoup changé, en fait, que le rapport au médecin n'était plus du tout le même, que le rapport au malade n'était pas le même, parce que maintenant, on est plus informé, parce qu'on sait mieux parler. En l'occurrence, ce que vous décrivez de terriblement impersonnel, alors au milieu de gens qui sont aussi des gens formidables, mais de terriblement impersonnel, il y a cette radiothérapeute qui est absolument épouvantable, la première scintigraphie mais est scandaleuse, en fait. On est en 2015. Moi, ça m'a scotché en lisant ça.
Bon, alors moi, je pense que c'est des problèmes de personnes qui sont inadaptées à leur fonction. La radiothérapeute a très mal pris mon attitude.
Parce qu'évidemment, comme vous êtes une emmerdeuse, vous vous êtes plainte. Après, vous avez bien
non,
fait.
Mais j'ai refusé le traitement. C'est-à-dire, j'ai fait un choix éclairé, puisque j'avais pris d'autres avis. Et surtout, ce qui m'a scotché dans son attitude, c'est qu'elle a voulu me déférer à un de ses confrères, homme quinquagénaire, puisque j'ai 55 ans. Et moi qui ai vécu les bénéfices des combats féministes, j'ai eu un peu de mal avec ce côté « vous allez l'accepter d'un homme plus âgé que vous », ce qui n'a bien sûr pas été le cas et j'ai refusé. Mais le problème de la bientraitance en milieu hospitalier est une vraie problématique parce que la frange est très très fine entre la bienveillance et la maltraitance. C'est-à-dire qu'il y a des personnels non formés. Il y a des gens en surcharge de travail, c'est-à-dire quand on analyse et quand on prend de la distance, on peut comprendre certains dérapages. Le problème, c'est que quand vous êtes l'objet de ce dérapage, vous avez du mal à prendre la distance. Et moi, je gueule.
Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que c'est eux qui ont la science, c'est eux qui savent. Donc du coup, il faut avoir un caractère comme le vôtre pour être capable de dire « Attendez, moi, c'est pas comme ça que je compte faire les choses. »
Oui, et puis enfin, j'ai des témoignages depuis le début du blog et maintenant avec la publication du livre, d'autres patients dans d'autres hôpitaux, parce que je ne jette pas la pierre particulièrement au centre où j'ai été traitée. La surcharge des services d'oncologie est monstrueuse. Parce que le cancer est quand même une des maladies qui évolue très très rapidement. Et quand on... Bon, moi j'ai un cancer des seins, j'ai une double mastectomie, enfin il y a eu des choses assez lourdes. Mais quand vous voyez des petits-enfants dans des poussettes avec des perfs... vous remettez les choses aussi des fois à leur place.
Et alors, pardon, dans ce livre, on rigole parfois, hein, honnêtement, oui. Parce que c'est tout, comme je le disais tout à l'heure, tout n'est pas forcément tragique. Donc, et puis comme effectivement vous avez décidé de le traiter parfois par le mépris, ce cancer, vous nous le montrez bien. Et puis il faut le dire aussi, hein, y a des moments qui sont beaucoup plus lourds, il y a des moments où il y a de la douleur, il y a des moments où il y a du sang, il y a des moments où il y a des moments de pur anéantissement aussi, parce que vous avez l'air très en forme là, mais il y a des moments où vous étiez par terre, oui. Et vous le dites, et vous, oui, le dites réellement. Et d'ailleurs, et c'est bien ce qui m'a frappé, vous posez la question tout de suite. Vous dites que la question de savoir si on continue le traitement ou pas, elle se pose tout le temps, en fait.
Oui, c'est en permanence. Et c'est en permanence de se demander aussi si on a fait les bons choix thérapeutiques, si on ne s'est pas trompé. Moi, il y a eu des périodes où j'ai dit peut-être je n'aurais pas dû choisir la double mastectomie.
Parce que c'est vous qui l'a demandé. Lui, il vous suggère
un sein en entier, exactement, l'autre en puzzle. Et
vous dites non, les deux.
Moyen, ouais.
Et vous le dites même dès le début, d'ailleurs, vous dites j'ai un passeport suisse, donc ça veut dire que vous savez ce que vous ferez, oui, si vous avez décidé de le faire. En
tout
fait,
à fait.
Et vous, c'est quelque chose que vous avez toujours en tête ou pas?
Oui, oui, tout à fait. Parce que d'abord, je ne suis pas guérie, que ce cancer est infiltrant et donc il est toujours actif dans mon organisme. Donc oui, je garde cette option tout à fait ouverte et c'est quelque chose dont on a parlé avec mon époux et je ne veux pas mettre ma famille face à ses choix.
Voilà, en tout cas, des choses parfois drôles, parfois très tristes, parfois douloureuses, mais à chaque fois très franche, ça s'appelle Fuck My Cancer. Manuela Villers, c'est publié chez Fayard. Et puis votre blog, il existe toujours. On peut,
oui,
aller le chercher facilement sur n'importe quel moteur de recherche.
Merci beaucoup.
Merci à vous.